et bienvenue dans Carte Blanche. Ça faisait longtemps, dis donc. Hein. Et aujourd'hui, j'accueille pour la première fois Abby et Léa. Bonjour.
Bonsoir.
Bonjour.
Bonsoir. Peu importe, les gens nous écoutent à l'heure qu'ils veulent.
Bien sûr, bien sûr.
Comment est-ce que vous allez ?
Ça va.
Pas tout en même temps. Comment ça va ?
Bah, ça va, ça va.
Un petit peu. Mm-hmm. Alors, vous allez bien déjà depuis ces dernières semaines ?
Oui.
Oui.
Un petit peu mouvementé, j'imagine.
Un peu spécial.
Ouais. Franchement, c'était pas la meilleure semaine de ma vie.
Les meilleures semaines. Non,
oui, c'est
les
vrai.
Meilleurs mois. Je pense qu'on peut parler de moi
on peut parler
là maintenant.
De moi,
ouais.
Alors, enfin, c'est bref. Votre premier podcast. C'est
tout
ça
à fait. Ah, tout à fait.
C'est toujours cool. Hein. J'aime bien voir des gens faire leur premier podcast. Ça va bien se passer déjà, je vous le dis.
Okay.
Et comment ça se passe pour vous ? Vous n'êtes pas trop stressé si. Peu.
Absolument pas.
Non. Vous avez super bien préparé en plus. Hein. Je regarde Abby qui a super bien préparé.
Oui, oui, oui. J'ai très, très bien préparé mes chroniques. Tout à fait.
Vous connaissez le principe de l'émission ou pas ?
Tout à fait.
Oui.
Vous avez vaguement écouté pour vous préparer. Hein.
Et oui.
Je vais le rappeler, bien sûr, pour les gens parce que ça fait 2 ans que j'ai pas fait cette émission. C'est pour
okay,
ça que je suis rouillé. Et oui.
Oh, et on n'avait pas regardé les dates en fait quand on a écouté.
Moi, je pensais que ça faisait un an. Enfin, non, même pas un an, genre quelques mois.
Alors, je vais rappeler le principe de l'émission du coup. Il y a 5 thèmes : jeux vidéo, séries, musique, etc. Vous en avez choisi 2 et vous allez nous faire vos petites recommandations. Et comme ça fait longtemps que j'ai pas fait cette émission, je vais être peut-être un petit peu rouillé. Je suis peut-être aussi stressé que vous, je ne sais pas. Donc, on va reprendre tranquillement. Hein, voilà. Donc, petit tour de table. De quoi on va parler aujourd'hui, Abby ? De quoi tu vas nous parler ?
Alors, je vais vous parler d'un film. Un film belge qui s'appelle Dick Neck. Et je vous parlais d'un album de l'artiste bassiste Thundercat.
Thundercat. Yes. J'ai prévu tous les petits extraits, les nombreux extraits de toute façon. Toi, Léa ?
Eh bien, moi, je vais vous parler d'un livre, un vieux livre.
Viens dans le micro.
Ah oui, pardon, excusez-moi.
Oui, voilà. Mais c'est pas grave, ça va venir.
Donc, un vieux livre qui s'appelle Ravage de René Barjavel.
Ah, Barjavel, c'est
un
trop
grand
bien,
classique, mais je me suis dit que c'était assez. Au niveau des réflexions que ça apportait, c'était plutôt d'actualité. Donc voilà, j'ai tout de suite pensé à ça. Et je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Ballpark Music et de leur album Puddinghead.
René Barjavel, c'est trop bien. Moi, j'avais lu Le Voyageur imprudent.
Ok.
Voilà.
Okay.
Et moi, je vais vous parler d'une petite série documentaire Netflix. Hein. C'est un peu mon dada, moi j'adore ça. C'est Au Royaume des Fauves. Peut-être.
Oh, mais oui,
on en a parlé.
Mais oui, c'est vrai.
Voilà.
Ouais.
Donc, on va en parler. On va commencer avec les bouquins. C'est toi qui vas commencer, Léa.
Ouais.
J'espère que tout va bien se passer. Tout va bien se passer.
J'espère
c'est
aussi.
Parti.
Bonjour Jean-Pierre.
Salut William.
Quoi de neuf Jean-Pierre aujourd'hui ?
Alors, pour Bouquin Matin, j'ai sélectionné pour vous un bouquin qui s'intitule Guerre et paix et c'est édité chez Plon. Alors, l'histoire est toute simple. C'est l'histoire de la guerre et de la paix.
Oui.
Et c'est Tolstoï qui l'a écrit.
Alors, de quoi tu vas nous parler ?
Alors, du coup, je vais vous parler de Ravage, de René Barjavel. Alors, du coup, c'est un... Je vais faire un peu...
Vas-y, fais comme tu le sens.
Un peu à la prof de français, voilà. Du coup, donc, c'est un livre de SF, déjà. Qui a été écrit et paru en 1943, donc sous l'occupation. Et ça, c'est assez intéressant d'ailleurs, parce qu'en fait, donc René Barjavel, il est surtout connu pour La Nuit des Temps. Donc c'est une histoire, vite fait, en fait, c'est dans le futur, il découvre une espèce de caverne, et en fait, il y a un gros glaçon avec deux êtres humains du passé dedans.
C'est Hibernatus, en fait.
Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, il est connu pour ça. Et donc, c'est le précurseur de la SF en France. Et aussi, il faut savoir que, donc, du coup, la SF en France, on est assez chaud, en fait, à l'époque. Il y a notamment Robert Merle avec Malléville, qui est un peu SF, pas complètement, mais bon, voilà. Et donc René Barjavel, en 1943, il sort Ravage. Et il faut savoir que la SF, quand on pense SF, souvent on pense aux gros trucs, les gros blockbusters américains et tout. Mais en fait, aux États-Unis, la SF, elle se démocratise massivement uniquement après 45 en fait. Et nous, on a commencé avant. Du coup, c'est plutôt stylé.
On est les précurseurs, au final. Hein.
On est les précurseurs de la SF, voilà. Et donc, voilà. Donc, Ravage, qui a été traduit en anglais par Ashes, et vous allez comprendre pourquoi, du coup, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Donc, en fait, c'est une dystopie qui commence en juin 2052.
Ah, dans 32 ans.
Voilà, dans 32 ans. Donc François, c'est un petit pécor du Sud.
Mais c'est-à-dire qu'en 2052, il y a encore des gens qui s'appellent François ?
Il y a encore des gens qui s'appellent François.
D'accord.
Ouais, ouais, exactement.
Bah, quand même.
Je sais pas, moi.
Et vous allez voir.
Ça pourrait s'appeler Zboulurk.
Ouais.
2050. Non, mais on dirait quelqu'un des années 70 qui imagine les années 2020.
Ouais, c'est vrai.
Bah là, c'est... En fait, on va voir que surtout sur la fin, en fait, c'est l'imagination futuriste, mais t'as quand même encore la vibe des années 40, tu vois. Donc, il y a François, c'est un petit pécor du Sud, qui... un fils d'agriculteur, quoi, okay. Voilà, qui vient du sud de la France, vers Marseille. Et donc, en fait, il va à Paris pour aller passer le concours de chimie agricole. Donc, en fait, c'est une grande école de chimie agricole, parce qu'il faut savoir qu'en 2053, les êtres humains ne mangent plus de la nourriture telle qu'on l'entend aujourd'hui. On mange des choses, en fait, qui sont préparées chimiquement et... Un peu comme des pilules, quoi, voilà. Et donc, il va à Paris pour ça, mais aussi pour retrouver Blanche, aussi appelée Blanchette. Voilà.
Comme la chèvre.
Comme la petite chèvre de Monsieur Seguin, voilà. Exactement. Et donc, c'est une amie d'enfance, puis il est un peu in love de Blanche, quoi. Donc, il est croque-love de Blanche. Du coup, donc il va à Paris pour ça aussi. Et donc, il faut savoir que François, du coup, c'est un mec qui est super proche de la nature, dans un monde où tout est hyper technologique. Paris, c'est devenu une mégalopole, carrément. Donc, super techno, avec tout est fait en métal et en plastec. Voilà, donc le plastec, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est un peu... Je sais pas, ça donne. Il y a plein de petits mots qu'il utilise comme ça,
ça
qui donne
ce petit cachet fantasy.
Exactement.
Ouais, science-fiction.
On ne sait pas exactement ce que c'est, il l'explique pas, mais on se fait quand même une idée. Donc il y a le plastique, il y a des automotrices partout, les trains qui flottent, il y a des diffuseurs de parfums pour que les gens se sentent bien. Enfin, c'est un peu spécial. Et donc voilà. Donc il arrive là-bas, il passe son petit concours, et puis en fait Blanche depuis. Elle est devenue actrice et mannequin, et elle est connue sous le nom de Regina Vox.
Ah. Mmh.
Voilà, ça fait un peu actrice porno, j'avoue. Mais, ouais, Regina Vox, je sais pas. Et donc, elle est... Il y a son manager, Jérôme Seita, qui est un peu croque-love de Blanche aussi. Voilà.
Le triangle d'amoureux.
Et ça va mal se passer, voilà. Il va être pas content contre François, parce que François il veut pécho Blanche, mais bon, Jérôme il veut pécho Blanche aussi. Donc bon, enfin, il y a tout un souk là-dedans. Je vais pas trop vous divulgâcher.
Là, pour l'instant, tu viens de me résumer un épisode des Marseillais.
Hein. Ouais, un peu. Non, mais c'est un peu ça au début. Hein. Et donc François a raté son concours. Pour voilà, l'école de chimie agricole. Quel malheur. Je ne dirai pas pourquoi. Ben non, mais François, tu chies dans la colle, François. Et donc, il va à la soirée de lancement de Regina Vox, du coup, pour aller l'encourager un petit peu. Et là, c'est le drame. Coup dur pour François. Panne de courant dans toute la ville, toute la mégalopole. Alors, une panne de courant, une sacrée panne de courant, parce qu'elle est au niveau mondial. Elle est à l'échelle mondiale, et donc, là, c'est le collapse. Mais vraiment, c'est le collapse. Tout s'écroule. La ville, toutes les villes, les grosses mégalopoles dans tout le monde entier sont incendiées, parce qu'en fait, tous les avions se crashent.
Même Rennes.
Putain. Non, en vrai, je sais pas. Mais j'imagine que Rennes est devenue une grande mégalopole aussi. Mégalopole bretonne. Remarquez, ça se trouve, ce sera Brest, en fait, la mégalopole bretonne.
Oh non. En vrai, non.
Non. Et donc, voilà, le monde est en saccage. Enfin, bref. Et donc, il n'y a plus de bouffe. Il n'y a plus d'argent, parce que tout était électronique. Enfin, électronisé.
Dématérialisé,
voilà. Ouais. Et, aussi, petite anecdote sympa. En 2052, visiblement, on n'enterre plus les cadavres, on les congèle. Sauf que un congélateur, ça fonctionne avec quoi ?
De l'électricité.
Très bien, 10 points pour Serpentard. Oui, donc en fait, vu qu'il n'y a plus d'électricité, les cadavres se décongèlent. Voilà, donc c'est une petite anecdote sympa. Il y a le choléra aussi, qui refait surface. Voilà, le choléra est de retour.
Ah ouais.
Donc vraiment, autant dire que c'est la Hesse. Voilà, c'est la Hesse. Donc François, il part avec d'autres survivants pour s'enfuir. Donc dans sa team, donc il y a François, il y a Blanchette, il y a le docteur Fauque, Madame Vélin, qui est une concierge, la concierge de l'immeuble de Blanchette, je crois, je ne sais plus tout à fait. Et il y a un certain Pierre qui rencontre avec sa femme qui est enceinte. Donc autant vous dire que ça va être sympa l'accouchement en pleine évacuation des lieux. Donc voilà, donc ils vont partir en vélo. Ils vont trouver des vélos, ils vont partir en vélo. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est assez what the fuck, hein, le scénario, mais c'est très sympa. Et le docteur, le premier à mourir, ça va être le docteur Fauque.
Ah, t'es triste.
Ouais, mais faut pas. En même temps, j'ai envie de vous raconter l'histoire, mais j'ai pas envie de tout.
On peut spoiler ici. La règle, c'est
pas spoiler. Bon, allez.
Ah, moi,
donc,
alors, spoiler, hein,
la mort la plus what the fuck de toute la littérature française, je pense, docteur Fauque. Qui meurent parce qu'en fait, ils ont dû traverser un hôpital psychiatrique dans lequel les docteurs faisaient des expériences au rayon Oslo. Et en fait, le rayon Oslo, ça donne des capacités de l'imagination, en fait. Il y avait un fou qui se prenait pour la mort. Il a été soumis à des radiations Oslo et en fait, du coup, il avait les pouvoirs de la mort et il a tué le docteur Fauque, comme ça, du coup.
D'accord.
Voilà, c'est somme toute une mort très,
non, mais ça a l'air
très sympathique, hein, voilà.
Il avait plein d'imagination en 43.
Et il avait, ouais, mais je pense qu'il, ouais, je sais pas, je sais pas si c'est la guerre qui inspire des trucs un peu dark et tout comme ça, mais
je pense voilà. Quand même.
Mmh. Ouais. Donc du coup, de ça va s'en suivre une traversée de rivière de boue en radeau, une grande course-poursuite dans la forêt. Enfin, oui, il se faisait courser par des chauves-souris imaginaires. Enfin, bref, c'est n'importe quoi, mais c'est génial. Et donc, en fait, par exemple, il s'échappe dans la forêt. Il ne savait pas ce que c'était qu'un arbre.
Ah ouais.
Et je crois qu'à un moment, ils décrivent ça comme une meule de foin sur un pic ou un truc du genre.
Ouais,
enfin,
ouais,
c'est vraiment chez père, hein, parce que du coup, ils sont...
Comme certains qui n'ont jamais vu de vache. Ou...
Voilà, c'est ça. Donc voilà. Et donc, la petite histoire drôle, moi, je pense, c'est celle qui m'a le plus marquée dans le livre, c'est qu'en fait, à un moment, ils n'ont plus de nourriture, ils n'ont plus de vivres. Et ils ne savent plus faire à manger puisqu'ils mangent des trucs chimiques. Donc, à un moment, ils sont dans une ancienne ferme en campagne. Et il voit des poulets. Donc, je crois que c'est Madame... Je ne sais plus si c'est Madame Vélin ou si c'est la femme de Pierre. Elles se disent, non, mais il faut qu'on leur montre qu'on est une bonne femme quand même. Hein. Parce que bon, il faut rappeler quand même que c'était, c'était en 43. Donc, il y a encore les valeurs de 43, hein, même en 2052. Et du coup, elle se dit, oh, on va préparer le poulet, hein, on va montrer qu'on sait faire. Sauf qu'en fait, François, il dit, OK, il part faire un truc, il revient. Elles étaient en train de faire cuire le poulet entier avec les plumes, avec les viscères plumes à l'intérieur et tout ça. Donc, c'était assez drôle. Et voilà, dans le livre, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et c'est assez rigolo.
C'est assez révélateur aussi d'une certaine façon de penser à l'époque.
Hein. Exactement. Ouais. Une bonne femme sait préparer un poulet. Voilà. C'est important de le savoir.
Tout à fait.
Voilà. Je veux dire, c'est... Et donc à la fin, sans trop raconter de ce qui se passe au milieu, du coup, ils arrivent à Vaud, dans le sud de la France. Et alors là, il va falloir relancer l'espèce humaine, messieurs, dames. Alors là, patriarcat alerte. Évidemment, il y a moins de femmes que d'hommes. Donc, la polygamie est obligatoire pour les hommes. Donc, on retrouve une société basée sur... Exactement. Non, mais c'est toujours les mêmes que ça arrange de toute façon. Donc, on retrouve une société qui est basée sur le travail, évidemment, et la nature. Et donc, on retrouve un François qui a 129 ans, 7 femmes, dont Blanche qui est morte et qui lui a donné pas moins de 17 enfants.
Oh putain, ça
aïe.
Et
alors, ouais. Et alors, attendez, parce que François a eu en tout 227 fils et une seule fille.
Ah merde.
Alors déjà, ça fait beaucoup d'enfants. Mais alors, du coup, il a une seule fille. Donc, qu'est-ce qu'il fait avec sa fille? Il la marie. Bah oui, parce que c'est ça qu'on fait avec les filles. Du coup, il la marie à Paul, qui sera son successeur. Voilà. Et donc, ça se termine sur François, en fait. Il y a un type dans le village qui est super intelligent et qui a créé une machine coup dur pour François parce que bah, les machines, c'est un peu ce qui a détruit la planète. Donc, il refuse la machine, le mec s'énerve et le mec tue François avec sa machine. Et du coup, bah, Paul, je crois que Paul, du coup, il arrête, il stoppe le mec et il devient, du coup, le king de la nouvelle. Du nouveau village, quoi, enfin, village. En fait, ça fait un peu village, mais tu sens qu'ils sont quand même des milliers dedans, du coup, c'est trop bizarre.
Une cité.
Ouais, la cité, je pense que c'est pas mal, voilà.
Mais du coup, t'as apprécié le bouquin ou pas ?
Je l'ai littéralement dévoré, en fait, parce qu'au début, j'étais obligée de le lire, parce que c'était une lecture obligatoire en classe, n'est-ce pas ?
Au CP.
Non, quand même pas.
Non ?
Non, en grande section.
Ah oui, pardon.
Bah oui. Et du coup, donc ouais, je dirais les 50 premières pages, j'étais là, oh putain de merde, il me reste encore 250 pages, je vais jamais y arriver, ça me saoule. Et en fait, tu passes la première partie du livre et après, vraiment, tu avales les pages. Genre, c'est... Je crois que je l'ai lu en... Alors, je suis pas une lectrice hyper rapide, voilà. J'ai un petit cerveau très, très lent. Du coup, mais le bouquin, je l'ai lu en genre 2 jours parce que bah, c'était trop bien. C'était trop, trop bien. Voilà.
D'accord. Tu conseilles aux gens ou pas ?
Ah bah, évidemment que je conseille.
Même si ça n'a pas super bien vieilli au final, je pense.
Enfin...
Disons que c'est un peu le reflet d'une époque, mais
c'est ça.
C'est vrai que quand on le lit maintenant, ça doit être un peu spécial.
Bah, en fait, ça a mal vieilli dans ce sens-là, mais ça a toujours les... En fait, ça pose des questions qui se posent un peu aujourd'hui, dans le sens... Enfin, bah, les questions du patriarcat, bien évidemment,
la technologie, la
5G. La 5G, mes amis. Non.
Après, je vous emmène voir mon compteur Linky.
Ah yes, trop bien.
Ouais.
Un vrai écolo.
Il y a des plaintes par rapport au compteur Linky.
Oh, oui.
Mais ouais. Et puis bah sur la crise écologique, le collapse, tout ça. Donc
écologie.
Ouais. Voilà.
Ah ouais. Donc,
très bien. Merci.
Une petite vibe de si vous voulez aller checker comment il s'appelle Pablo Servigne, voilà, qui est collapsologue. Ça a une petite vibe Pablo Servigne, voilà.
Eh ben merci Léa.
Avec plaisir.
Ce sera tout, rien à ajouter ?
Je crois que c'est tout.
On va passer au film. Est-ce qu'on passe au film ?
Bien sûr.
On va passer au film. Mm-hmm. C'est ça qui est incroyable. C'est parti. Non, ce n'est pas du Robbie Williams, c'est François de Roubaix. Voilà.
Oui, tu l'as déjà dit ça dans un autre podcast.
Ben oui, je le dis à chaque
émission. Mais oui, mais pour
émission. Ceux,
genre par exemple nos familles, nos amis qui ont écouté le podcast, sauront pas.
Même si le morceau de Robbie Williams. Bref, bref, on va partir sur du cinéma. De quoi tu vas nous parler ?
Alors, je vais vous parler du film Dick Neck. Donc, Dick et Neck. Moi, je dis Dick Neck, hein, bon...
Ah ouais.
On s'arrange comme on peut. Donc, c'est un film de Olivier Van Hoosvat. C'est un peu galère. Hein,
c'est la page Wikipédia, c'est ça.
Non, du tout. Cinéma français. Ouais, bah ouais. Donc voilà, donc un film avec Marion Cotillard, Jean-Luc Bouchard, Dominique Pinon, Jérémy René, Mélanie Laurent, bien sûr, François Damiens, oui. Florence Foresti.
Ah.
Qui joue une flic, d'ailleurs, c'est assez drôle. Plein de beaux mondes, voilà. Donc, ça parle de JC et Steph, qui sont des amis d'enfance, ils sont inséparables. Et donc, JC est le Dick Neck belge. C'est un donneur de leçons à 5 balles, un moralisateur, un tombeur de minettes, bref, une grande gueule intégrale, coiffée comme un peigne. Et donc, Steph... C'est tout le contraire, il cherche le grand amour, mais vu qu'il ne bouge pas de son lit, il va avoir du mal à trouver l'amour qu'il veut donner, en fait. Voilà. Et donc, JC, le BG, on va dire, va lui donner une méthode, c'est-à-dire faire un sans-faute du point A jusqu'au point G. Voilà.
Ah, oh. Ça sent la finesse, ce film.
Ouais, on va dire, c'est belge. Ouais. Voilà.
Tu sais que c'est le film que j'ai jamais pu... regarder parce qu'au bout de 20 minutes, j'étais...
C'est vrai que c'est lourd. C'est très,
pas,
très lourd.
C'est pas mon humour, tu vois.
Mais en fait...
Donc il va falloir me le vendre, attends.
Donc voilà, enfin bref, du coup, il se passe plein de choses, il y a plein de personnages qui rentrent dans le film. Et en fait, moi, je l'aime bien parce que ça change de... Mélanie Laurent et Marion Cotillard, elles ont toujours des rôles très, très grandes dames.
Sur mesure.
Voilà, très... genre, c'est vraiment... Enfin, les Américains disent « Oh yeah, Marion Cotillard, she's very fabulous. » D'ailleurs, sa mort dans le film Batman, qui est nul à Yesh.
Qui est sujette à controverse, bien sûr.
Ouais, enfin bref. Ce n'est pas le sujet, mais bref, du coup, en fait, je trouve que ça change, en fait, de... on change de regard sur justement ces actrices ou même les acteurs qui ont des rôles, des fois, justement, très classe, très stylé. Bon, peut-être pas Florence Foresti ou François Damiens, mais mais je parle surtout
qui a fait
de
beaux films, François Damiens aussi.
Oui, c'est
je
vrai.
Incapable de t'en citer un là tout de suite, mais
genre La Famille Bélier.
c'est vrai qu'il a
avec
pas
Louane, c'est ça.
Louane, c'est ça son nom, ouais.
D'ailleurs, qui a accouché récemment, qui a eu son premier enfant.
Non.
Félicitations, Louane.
Mon Dieu, félicitations.
Voilà, donc surtout par rapport à Mélanie Laurent et Marion Cotillard, ouais, elles ont des rôles, c'est quand même quelque chose. Enfin, Marion Cotillard, elle joue une prof, une maîtresse d'école qui est complètement droguée. D'ailleurs, à un moment, elle explique aux enfants ce que ça fait la drogue et que c'est mal, tout ça. Enfin bref, plein de trucs comme ça. Et voilà, ça, je trouve que ça change en fait. C'est vraiment c'est vrai que c'est lourd. Faut vraiment poser son cerveau
ça, en fait,
avant de regarder le film.
C'est pas un peu un film à regarder en buvant de la Jupiler, du coup.
Ouais.
Bien.
Ouais,
bien
à bouffer une barquette de frites, une fricadelle.
Mais moi, voilà. Je t'avoue qu'en fait, le film, je l'avais lancé plusieurs fois et je suis jamais allé aussi loin que la scène. Je sais même pas si c'est une scène au début du film ou pas où je viens de me faire carjacker. C'est dans le film, rassurez-moi.
Moi, je l'ai pas vu.
Ah, tu l'as pas vu non plus ? Oh, mince ! Voilà, et c'est cette scène-là, et j'ai arrêté parce que ça m'a pas plu. J'ai jamais en fait compris de quoi parlait vraiment le film. C'est bordélique, je trouve.
C'est vrai que c'est bordélique. Mais pourtant, moi, j'ai réussi à suivre en tout cas l'histoire.
Bravo.
Enfin, je sais pas comment j'ai fait, mais en tout cas, j'ai à peu près compris, quoi. Mais c'est très, très décalé, quoi.
Et on le regardera, enfin, je le regarderai. Pour voir. Peut-être que je vais essayer de lui redonner une chance à ce film.
Ouais.
Voilà, peut-être...
Après, c'est pas, je recommande pas forcément, mais vraiment, si un soir, vous avez envie de regarder un truc sans prise de tête, de trucs comme ça, vous pouvez regarder Dick Neck. Voilà.
Non, mais j'essaierai de regarder. C'est vrai que... En fait, quand je vois les images, ça me fait penser un peu à un Trainspotting.
Oh, oui.
Voilà, c'est parce qu'il y a des images sur le second écran qui est devant nous, et ça me fait penser à Trainspotting. Voilà, j'essaierai de regarder ce film. Eh ben, ce sera tout ou pas ?
Oui, oui. Voilà,
eh ben, c'est parfait. On va continuer. On va continuer avec quoi ? Avec de la musique. Et je crois que vous avez plein de choses à nous dire.
Oui, tout à fait.
Eh ben, la musique, c'est parti.
Chers frères et sœurs, bonjour. Je souhaite vous parler de la mauvaise musique. Nous savons que le hard rock, le rock and roll, la techno, la trance vont faire parvenir la personne dans un état second dans le but de la livrer à la drogue, de la livrer au sexe et au délire.
C'est parti pour la musique, il y a plein de choses à dire, je sors les 10 000 liens YouTube.
Yes.
Alors
bah, du coup, je vais vous parler d'un un album donc, qui s'appelle Puddinghead. D'un groupe qui s'appelle Ballpark Music.
Ballpark.
Voilà, donc alors...
Alors au début, je croyais que c'était Pulled Pork.
Non, Pulled Pork Music.
Foire effiloché.
Ballpark Music. Et du coup, donc... Alors, ah oui, devinez d'où vient ce groupe, sachant que c'est un groupe que j'aime.
C'est anglais. Non, c'est américain.
Australien.
Oui.
Non, mais enfin, moi, c'est facile, je vis avec toi, donc
c'est
voilà.
Vrai. Je me suis rendu compte qu'en fait, à chaque fois que j'aimais un groupe, quand j'allais sur leur page Wikipédia...
Des Bee Gees, In Excess...
À chaque fois, ils sont australiens.
Ouais.
À chaque fois.
Tame Impala.
Tame Impala. Mm-hmm. Oh là là. Mes bébous sûr. Bref, du coup... donc oui, c'est un groupe australien qui vient de Brisbane. C'est un groupe d'indie pop, donc voilà, de pop indépendante, tout ça.
Des couleurs fluo,
tout
des
à fait.
Guitares qui font cling, cling, cling.
Exactement, la petite pédale wah-wah, là, voilà. Voilà. Donc il est composé de 5 membres, donc le frontman c'est Sam Cromack, qui fait donc guitare et voix, comme la plupart des frontman de groupes. Voilà. Voilà. Ensuite, il y a Jennifer Boyce, qui est à la basse. Il y a Paul Furness, qui est au clavier et au trombone. Mmh, ouais. Cool. Et ensuite, il y a deux jumeaux, donc Dean Hansen et Daniel Hansen, du coup. Donc, Dean est à la guitare et Daniel à la batterie. Donc, en fait, tous les cinq... Attendez, ça fait cinq ? Oui, ça fait cinq. et là, on pourrait mettre le même... tu sais, la mathématique avec un K.
Ouais, mais tu sais que ça passe pas à l'oral.
Ben non, du coup.
En audio, c'est pas ouf, hein.
Enfin, vous avez l'image, du coup. Donc, en fait, tous les cinq, ils se sont rencontrés quand ils étudiaient la musique... à l'université, donc dans le Queensland, du coup. Et voilà. Et donc, si vous remarquez, Ballpark Music, ça fait BPM, du coup. Beats per minute.
D'accord.
Du coup, voilà.
Il y en a là, hein.
Et en plus, quand j'ai préparé la chronique, j'étais là genre, Ballpark Music, et j'étais là genre, oh, putain, mais ça fait BPM. Et du coup, je me suis dit, putain, vite, il faut que je le note. Vraiment, j'ai arrêté de faire tout ce que je faisais pour aller noter sur ma feuille. Donc, Puddinghead, c'est leur troisième LP. Donc, alors, un LP, c'est un album, mais sur vinyle.
Un peu plus court.
Voilà, sur vinyle. Il est sorti le 4 avril 2014. Et alors là, il est passé en masse sur Triple J. Alors, Triple J, du coup, c'est la radio nationale australienne. Je crois qu'elle est financée par le gouvernement australien, d'ailleurs. Un peu pour promouvoir la musique australienne, tout ça, voilà.
C'est bien.
Et ils ont été numéro 2 du ARIA Charts, qui est une espèce de... C'est un peu les Grammy Awards de l'Australie. Et du coup, dans la catégorie albums australiens les plus vendus, ils sont arrivés deuxième, juste derrière In Excess. Rien que ça. Donc rien que ça derrière In Excess.
Bravo, parce que c'est quand même un des groupes les plus connus.
C'est un gros groupe quand même.
Avec Men at Work.
Mais je savais même pas qu'ils étaient australiens. Voilà, je l'apprends ce soir. Voilà.
Bah, voilà. Et du coup, Puddinghead. À la base, Puddinghead, c'était c'était censé être un titre en fait, mais il a pas été sur l'album. Et du coup, ils l'ont rajouté en piste bonus après. Mais ils ont gardé le nom en fait quand même pour l'album, parce qu'en fait, alors Puddinghead, du coup j'ai regardé des petites interviews, me suis bien renseignée.
Petit fun fact.
Du coup en fait Puddinghead, à l'époque élisabéthaine, l'époque élisabéthaine, c'est l'époque de Shakespeare quoi en gros. C'était une insulte. Et alors un Puddinghead, du coup c'est quelqu'un qui est capable de rater même la tâche la plus simple. Voilà.
Oh,
c'est un bon à rien.
C'est violent.
C'est un gros nulos. Voilà. Et du coup, donc en fait, si vous regardez chez vous, dans le confort de votre maison, la pochette de l'album, en fait, il y a une petite vibe élisabéthaine avec le mec en collant, l'espèce de petite jupette shakespearienne, là. Ouais, voilà. Il y a une petite vibe. D'ailleurs, j'aime beaucoup la pochette. C'est pour ça, en fait, que je les ai découverts, parce que j'ai cliqué sur Spotify, sur le titre, qui avait cette jolie petite vignette.
Jolie petite image.
Et j'ai trop kiffé. Du coup, voilà. Et alors, pour résumer un peu le style musical, je me suis amusée à faire un petit mélange dans mon chaudron.
J'aurais des trucs à dire, parce qu'il y a énormément d'influences, j'ai l'impression.
Ouais.
Je pourrais en citer genre 5-6.
Alors, ouais. Moi, j'ai fait avec ce que j'avais en tête, j'ai fait un petit mélange dans mon chaudron. Mmh. Genre, tu mélanges The Cooks.
Bravo, Poufsouffle.
Voilà, bravo, Poufsouffle.
Ouais,
15 points pour Poufsouffle. Tu mélanges les Cooks, tu mélanges Paramore. Et un autre groupe australien qui s'appelle The Belligerents. Tu mélanges tout ça et tu as Ballpark Music, du coup. Mais voilà. Je sais pas si on peut peut-être.
Ça peut être un extrait.
L'extrait de ma chanson favorite de l'album, qui est un peu, je pense, genre la chanson de l'album, du coup. Mais elle est trop bien. Qui s'appelle Trip in the Light Fantastic. Voilà. Donc, j'étais en train de m'enjailler derrière le micro,
ouais,
là.
Ouais.
C'était intense, mon Dieu. Du coup, ouais.
On peut y retourner, hein.
Wouhou.
Ah, j'ai l'impression d'être un mauvais DJ dans un camping.
Un peu, ouais.
Et non, ou les fêtes de village.
Allez, c'est parti.
C'est parti pour un maximum de plaisir.
Légèrement en fond.
Sympa. Donc voilà. D'ailleurs, super pour chanter sous la douche, c'est nickel. Je vous le conseille. Voilà. Et d'ailleurs, du coup, dans le clip de cette chanson, il y a une petite référence à Beganov, c'est ça? Le cow-boy qui crie, voilà. Donc si vous allez voir le clip et que vous êtes curieux, vous allez voir à la fin du clip, il y a une petite référence au cow-boy qui crie.
Les cow-boys qui gueulent que vous pouvez entendre maintenant.
Après, du coup, il y a une petite vibe. Si tu veux mettre l'autre extrait, du coup, il y en a qui sont un peu plus... un peu plus tristou, quoi. Voilà. Petite vibe pour déprimer tranquille dans son lit... soir
quand
à 2h du mat,
t'as envie de pleurer encore plus.
Ouais, exactement. Voilà. Putain, c'est trop le feeling.
Oh, j'ai trop l'impression de voir un même Twitter là. Quand t'es triste et que tu veux pleurer
encore
plus.
C'est ça. Ouais. Et
celle-là, c'est. Attends, le titre, c'est. She only loves me when I'm there.
C'est ça.
Je crois. Okay.
Mais elle est très bien.
Elle est très bien.
Et elle est pas aussi.
Non.
Plate, enfin, pas plate, mais à un moment, ça part.
C'est ça. Ça part à un moment.
Moi, préféré, c'est A Good Life is a Good Revenge.
A Good Life is the Best Revenge, qui est très très cool. Très feel good aussi. Mais en fait, tout leur album, c'est un peu ça. C'est ouais, la vie, c'est de la merde, mais putain, on s'en bat les couilles. Genre, on va réussir à faire un truc cool de notre vie. C'est un peu ça, j'ai l'impression. Du coup, c'est.
Mais oui, c'est un album qui était assez cool. Je l'ai écouté hier, du coup. Pas en entier, les trois quarts. Mais c'était vraiment très très bien. Ce sera tout.
Ce sera tout.
Ce sera tout, parfait. N'hésitez pas à me dire quand ce sera tout. On écoute un petit peu encore.
C'est cool, hein?
Ouais,
ça se laisse écouter.
Et donc c'était... Alors rappelle le titre de l'album et le groupe.
Donc le titre de l'album, c'est Puddinghead, donc Tête de Pudding. Et le nom du groupe, c'est Ballpark Music.
Très bien, Evan. BPM. On va passer à la suite, parce qu'il y a encore un album. D'habitude, on ne parle jamais de musique dans cette émission. Et puis là, il y a deux albums d'un coup, c'est très très bien.
C'est incroyable.
Abby, de quoi tu vas nous parler?
Donc je vais vous parler de Thundercat.
Thundercat.
Et donc, son dernier album, It Is What It Is. Mais bon, d'abord, je vais vous parler un peu de l'artiste. Donc c'est un bassiste et producteur américain, donc il a fait 4 albums et un EP single et un album, ce qu'on appellerait un album de luxe, je dirais, enfin en fait c'est un
collector.
Voilà, c'est tiré d'un album original, puis il y a eu des remixes dessus, enfin bref. Donc Thundercat, il a commencé sa carrière de musicien dans le groupe Suicidal Tendencies de 2002.
Ah, mais je connais
et
ça.
Oui. Et donc, sa carrière dans ce groupe, elle a duré... Enfin, ça a commencé en 2002, il a arrêté en 2011. Et donc, dès 2011, il a fondé son propre label. Il est comme ça. Il a fait son label Brainfeeder avec son ami Flying Lotus. Drôle de nom, d'ailleurs. Et donc, voilà. Donc, il a fait son premier album qui s'appelle The Golden Age of Apocalypse. Après, il a fait un album en 2013 qui s'appelle Apocalypse.
Tu commences à y avoir un motif qui se dessine sur l'apocalypse.
Ouais.
Ouais, j'avoue, c'est le thème récurrent de ce podcast.
Et oui. Et donc, après, il a fait un single, The Beyond Where the Giants Roam, en 2015. Il a fait son album Drunk en 2017 et c'est Je pense que c'est à partir de là qu'il a commencé à être connu. Et donc, il y a eu un album de luxe. Donc, après Drunk, il y a Drank en 2018.
Oh, il a ce sens de l'histoire.
Ouais. Voilà.
C'est génial.
Non, c'est cool.
Donc, et d'ailleurs, dans Drunk, il y a un son qui... en fait, il est vachement connu ces temps-ci grâce à la plateforme TikTok.
Ah.
Et c'est Them Change.
Oh putain, c'est lui qui a fait ça.
Oui. Bon voilà, donc souvent les gens ils disent que c'est quelque chose, ça représente, cette musique représente quelqu'un qui marcherait à grands pas avec des pattes d'éléphant, tu ouais. vois, des trucs comme ça, comme si ce serait la représentation du cercle, enfin bref. Donc voilà, donc c'est sa musique la plus connue d'ailleurs. Enfin bref, j'ai pas parlé de cet album-là, j'ai plus parlé de son dernier album, It Is What It Is, comme je vous ai dit au début. Je l'ai écouté, mais attentivement. En fait, ce que j'aime bien, c'est le son de la basse, c'est quelque chose d'assez doux, mais à la fois rond. Je sais pas, il y a quelque chose de funky, groovy, et c'est ce qu'il fait dans cet album-là. Par exemple, dans Lost in Space.
Ah mais c'est Tame Impala.
J'avoue, on dirait Tame Impala un peu.
Et les Beach Boys.
Voilà. Et il y a aussi Interstellar Love. Pardon, j'ai bugué. Voilà, les deux, ça suit vraiment, ça se ressemble un peu avec les réverbérations et on a vraiment l'impression de voyager dans l'espace, l'univers.
Ah, c'est un peu trippant et tout, c'est cool.
Ah, c'est quelque chose vraiment à écouter. C'est vraiment un album où t'écoutes surtout l'instrumental en fait.
Ouais, mais tu vois, si l'album existe en instrumental, je pense que je l'écouterais plus
ouais.
que s'il était juste avec la voix. Moi j'adore les instrumentaux. Avec la batterie qui fait un peu de jazzy derrière.
Et oui, c'est ça, c'est groovy, funky, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment agréable à écouter. Et donc, il y a une musique que je préfère dans son album, une chanson en particulier, un titre en particulier, c'est Dragon Ball Durag. Alors les paroles, c'est pas du tout classe, funky.
Classe.
C'est très humoristique. Enfin, même en voyant le clip, c'est un type... je dirais un peu ringard qui veut essayer de draguer des multiples femmes. Enfin, je sais pas, il dit zoom zoom, enfin, je sais pas, enfin...
il claque des doigts.
Voilà, enfin, il y a plein de trucs de gamins par rapport justement à DBZ, le manga Dragon Ball Z. Voilà, enfin, il y a des trucs comme ça, enfin, c'est vraiment un peu un gamin. Mais si on écoute vraiment l'instrumental, on fait pas vraiment attention aux paroles et on apprécie en fait ce titre-là. Mais c'est chouette, hein.
Non, c'est tip-top.
C'est très chouette, mais c'est le genre d'artiste genre. Si t'écoutes pas les paroles, c'est quelque chose de génial et tout, mais quand t'écoutes les paroles, t'es là.
C'est
ah ouais,
quoi, c'est un peu beau.
Bah, des fois, il fait exprès.
Ouais,
il fait
oui,
exprès. Et quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est quand même très dommage, il est assez sous-coté, mais en fait, il a quand même co-écrit, co-produit le dernier album de Travis Scott, Astroworld.
Oh, rien que ça.
Il a collaboré avec Kendrick Lamar aussi pour 3 albums. Et il a été récompensé par rapport à un des titres... alors, je sais plus quel album, enfin c'est un peu dommage, je sais plus, mais enfin bref, Childish Gambino aussi, ah, et Mac Miller aussi, ah, qui, wow, est, qui est décédé il y a deux ans, deux,
déjà,
trois ans, ouais, deux ou trois ans.
Déjà,
ouais.
Merde.
Et donc ouais, ouais, il a beaucoup coécrit, coproduit avec beaucoup d'artistes très connus. Et je trouve assez sous-coté, en fait, cet artiste. C'est pour ça que j'ai voulu vous en parler.
Eh ben moi, je vais écouter encore après.
C'est un peu un homme de l'ombre du rap américain, du coup.
Ouais, rap.
Un underdog.
R&B, tu vois, ouais, plus. Ouais. Mais ouais.
Bah, parce qu'avec Kendrick Lamar et tout, oui, machin, oui, oui, c'est ouf, en vrai, putain.
Ouais.
Eh ben, voilà, très bien, ce sera tout.
Ce sera
eh ben,
tout.
C'est une belle découverte. Moi, je pense que je vais encore je vais continuer à écouter ça après. Peut-être les albums en entier, histoire de me faire vraiment une idée.
Ouais,
mais
ouais,
c'est vrai,
ouais,
que moi, Zen Change, que je connaissais un tout petit peu avant, c'est vrai qu'elle est vraiment très, très bien.
Ouais, ouais.
Et je pose la question à Abby et à Léa, mais respectivement par rapport au groupe, mais c'est des gens qui tournent en France ou qui font des concerts en France que vous seriez tenté d'aller voir, si tenté qu'un jour on puisse retourner voir des concerts,
c'est
bien sûr.
C'est ça. Alors, moi, j'avoue que j'ai fait ma recherche dernièrement et il va bientôt se produire à Paris. Ah. Alors, c'est en novembre, il me semble. Ouais. Il va faire un concert. Mais sinon, il fait beaucoup de tournées aux États-Unis. Je pense, en plus, le prix est très bas parce que je vous ai dit, il est sous-coté. Du coup, ouais, c'est très rentable. Enfin, quand c'est de la bonne musique et que c'est pas cher, c'est vachement rentable. Donc, peut-être que j'irai, je sais pas. Ça dépend aussi de comment ça évolue, cette pandémie, des trucs comme ça.
Voilà.
Voilà, mais sinon, d'un point de vue optimiste, je pense que j'irai le voir, j'apprécierai, ouais.
Et toi, Léa, Ballpark Music,
ouais.
Ah, j'ai oublié le nom, putain.
Ballpark Music.
Music.
Du coup, c'est... alors, j'avais regardé vite fait, ils tournent surtout en Australie. Bah, et il me semble qu'ils avaient fait aussi, ils avaient tourné un petit peu en Europe. Mais déjà, l'album là, que j'ai présenté date de 2014. Et depuis, bon, ils n'ont pas fait énorme. Ah si, ils ont un titre qui est sorti il n'y a pas longtemps, genre cette année là, je crois, qui s'appelle Sport Cup. Et, mais ouais, non, ils tournent... Enfin... Ça m'étonnerait qu'on les voit en France de sitôt. Ouais. Je sais pas trop. Mais s'ils passent, j'aimerais bien aller les voir. Surtout que le chanteur, je le trouve genre mimes. Il fait un peu nerd, un peu nerd gênant, tu vois. Mais ouais, mais mimes quand même. Du coup,
ok.
Voilà.
Je te crois
j'sais
sur
pas.
Parole.
Du coup, c'est genre non, je sais pas. Enfin non, mais le groupe a l'air cool en plus. J'ai regardé des interviews et tout. Ils sont sympas. Non, c'est ouais.
Donc avant de passer à la suite, rappelle-moi le nom de l'artiste et le nom de l'album, c'est...
Donc moi c'était...
Désolé de te prendre des pourvus.
Pardon. Thundercat. Et donc l'album c'était It Is What It Is, mais celui, enfin, c'était Them Change que t'aimais bien.
Ouais.
C'est dans l'album Drunk, mais même Drunk il est sympa à écouter.
J'écouterai du coup.
Voilà.
Eh ben, on va passer à la dernière chronique, on va parler de série documentaire, c'est pour ça que ça rentre dans la catégorie des séries, c'est parti.
Did you know the human eye can see more shades of green than any other color? When you figure out the answer to my question, then you'll have the answer to yours.
C'est à mon tour, je vais parler d'une série incroyable moyen en fait. C'était pas si terrible que ça quand j'y repense. Je vais vous parler de Royaume des Fauves. On en a parlé, discuté très brièvement.
Oui.
Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'aime bien regarder les séries documentaires, comme celles qu'on retrouve sur Netflix. Et généralement, c'est avec mon grand copain de Twitter, mon grand copain Cobal, qu'on regarde ça via Internet. Hein. On se prend une petite bière et puis c'est arrivé qu'on regarde ça jusqu'à 4h du matin. Bref, on s'est fait une saison entière de Marseille. Donc,
c'est pas très sérieux tout ça.
Non.
Mais c'est bien
et
Marseille.
On en a fait...
D'ailleurs, moi, j'aime bien, moi, j'apprécie.
Bah, moi, j'ai bien aimé la saison 2, en fait. Enfin, bref.
Ah, j'ai vu que la saison 1, du coup, parce que j'avais pas trop kiffé, parce qu'ils font des accents... Alors, moi qui viens du
Benoît Magimel.
Moi qui viens du Sud, l'accent de Benoît Magimel, je le prends un peu comme une insulte, voilà.
Mais bon, c'est Marseille.
On a fait plusieurs visionnages de séries documentaires à la recherche de la petite pépite. Hein. On a eu Murder Mountain, c'était une enquête sur les cultivateurs de cannabis qui opèrent dans l'illégalité... en Californie, c'était de la merde. Je me souviens de Tickled, donc vous avez
oui,
documentaire un peu chelou sur des concours de chatouilles hein, orchestré par un fétichiste malsain.
Oh là là.
On avait pas mal parlé de ce documentaire à l'époque. C'était pas mal, c'était bien. Il y avait quoi, Les Génies du Mal? C'était une enquête sur un livreur de pizza qui s'était embarqué dans une affaire de braquage de banque et il s'était retrouvé avec un colis explosif autour du cou et puis il est mort. Enfin bref.
Ah oui.
C'était pas. Voilà. Il y avait Don't Fuck With Cats qui est sorti il y a pas longtemps.
Ah, j'en ai entendu
sur,
parler.
Une enquête sur Luca Magnotta, rappelez-vous. C'est, peut-être ce nom vous dit quelque chose. C'était le dépeceur de Montréal.
Ouais. Oui, on m'a déconseillé cette série à cause du sensitive content.
C'est chaud.
Ouais,
c'est chaud.
Ah oui, bah pour toi, ouais.
Il y a même des moments où je regardais pas l'écran. Okay. Alors qu'il y avait rien de. En fait, au final, il y avait rien de vraiment suggestif, mais bref. C'était pas mal. On a regardé aussi Wild Wild Country, la meilleure série. Hein. C'était formidable, c'était sur l'installation d'une secte aux États-Unis dans une petite bourgade. Oh, c'était tellement bien, c'était MVP quoi, c'était le meilleur truc de ces dernières années en série documentaire. Et bah, pendant ce confinement, ces dernières semaines, plusieurs personnes m'ont parlé de ce que je vais vous présenter maintenant, ce qui est Au Royaume des Fauves ou Tiger King. Et ça, j'ai commencé à regarder ça hein, avec Dami Cobal, on a vu 4 épisodes sur 6. Donc j'ai pas tout vu, mais je pense que j'en sais suffisamment pour vous en parler. Et en fait, quand on m'a pitché la série, j'ai fait « Allez, hop, banco, c'est parti ». Donc, qu'est-ce que c'est, justement ? Donc, je sais qu'Abby, du coup, t'en avais entendu parler.
Oui.
Voilà. Donc, je sais pas si t'en avais entendu
pas
parler.
Pas trop, bah, à part toi, au balcon. Ouais. Mais c'est pas ça.
Donc, c'est une série documentaire de Netflix en 7 épisodes de 45 minutes, 6 ou 7, je sais plus, il y a un épisode spécial. Ça se passe aux États-Unis dans le petit monde particulier des zoos pour Big Cat, donc des zoos pour félins. Tigres, lions, etc. Et on va suivre une galerie de personnages tout aussi étranges les uns que les autres. Alors, on va suivre plus particulièrement ce monsieur, Joe Exotic. Voilà. Il est décrit tel quel. Dans...
Vous voyez pas, mais on a la photo devant nous, c'est incroyable.
Alors, non, mais surtout son nom, quoi. Non, mais on en parle.
Il est décrit tel quel, j'invente rien, hein, c'est vraiment la façon dont il est décrit. Un cow-boy redneck, toujours armé jusqu'aux dents, qui passe son temps à détruire des objets avec ses armes à feu.
Avec un mulet.
Avec un mulet, voilà.
D'ailleurs... Les gens, faut qu'ils arrêtent de décider que le mulet, ça revient à la mode. Oui. Non, c'est juste laid.
On ne juge pas. S'ils aiment bien, ils aiment bien.
Non, mais si, ça, c'est très jugeable. Donc, voilà, on
donc
arrête.
Voilà, chemise criarde, coupe mulet, égo surdimensionné. Il a sa propre chaîne de télé dans le zoo, etc.
Un Américain,
quoi. On a sa rivale
quoi.
Qu'on a vue aussi, Carol Baskin, qui est une soi-disante. Alors, je mets soi-disante entre guillemets parce que c'est un peu flou, en fait, dans la façon dont c'est présenté. Mais c'est une activiste pour les droits des animaux. Et soi-disante parce qu'elle paraît très gentille comme ça, mais elle est un peu louche, tu sais pas trop si elle est vraiment sincère dans sa démarche. Elle possède un parc aussi pour félins, mais tu sais pas si elle veut vraiment aider les animaux ou c'est juste une bonne rente d'argent en fait. Puis après il y a des histoires cheloues, bah, je vais spoiler, hein, mais c'est une histoire chelou comme quoi elle aurait assassiné son mari il y a 20 ans et puis elle en aurait fait de la pâtée pour les lions, enfin bref. Elle l'aurait mis dans un grinder de viande.
Ah comme dans... Comment ça s'appelle le film là de Tim Burton, Sweeney Todd
avec, ah oui peut-être ouais donc voilà donc
bon, j'ai spoilé elle... Sweeney Todd super
donc elle aussi tu vois elle est peut-être un peu plus respectable comme ça mais elle est un peu louche quand même tu sais pas trop bref et j'ai pas vu la fin hein, donc et il y a un troisième propriétaire de zoo c'est un mec qui a fondé un culte autour de sa personnalité c'est limite sectaire c'est hyper malsain et il a son harem de femmes qui travaillent gratuitement pour lui. Et il y a tous les non mais c'est
ouf
c'est marrant quand on en parle comme ça mais quand tu regardes il y a tous ces sous-entendus d'esclavagisme et d'abus derrière donc c'est pas très très drôle
de moi,
donc t'as plein d'autres personnages genre un ancien trafiquant de drogue qui s'est reconverti dans le trafic de lions t'as les gardiens de parc il y en a pas un à qui il manque genre une jambe ou un bras tu vois, c'est toute une galerie comme ça
Je pense qu'on peut sortir un petit America
fuck yeah et on va se suivre tout ce petit monde en concurrence les uns les autres chacun va essayer de faire des crasses à l'autre pour faire fermer les parcs alors on va suivre petit à petit ce qui se passe au début c'est des trucs assez gentils entre guillemets c'est des campagnes de délation dans les médias c'est des manifestations et tout puis après ça monte d'un cran c'est carrément des incendies criminels des tentatives de meurtre ça devient assez vite sordide bah oui le monsieur qu'on voit là Joe Exotic en fait il est en prison là pour avoir commandité un meurtre de sa rivale
mais là la photo qu'on a c'est
une photo de prison
de...
ça
c'est un mugshot
c'est sûrement un mugshot ouais. Ça, je sais pas
bah si non mais c'est clairement obligé. Un mugshot enfin
voilà. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh ben, en fait, je sais pas trop. Je suis assez perdu. C'est un peu fourre-tout comme série. T'as un côté un peu true crime. C'est une série enquête, mais pas trop. Tu vois, le côté enquête, il est dilué dans plein d'autres choses. C'est pas une enquête sur un meurtre ou voilà. t'as un côté portrait où bah c'est des portraits de personnages avec les bons, parce que il a des bons, donc ça ce qui est bizarre c'est que personne qu'on voit là Joe Exotic, il a des bons côtés, mais il a beaucoup de mauvais côtés. Et en fait, le documentaire est fait au début pour qu'on te fasse apprécier le personnage, pour que ça fasse quelqu'un d'assez gris, en fait. Et c'est assez bizarre, tu dis, mais il n'est pas si méchant que ça. Puis après, blam, c'est parti, ça te met mal à l'aise. Bref, il y a un côté aussi qui était intéressant, je crois que c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant, en immersion dans les eaux, dans la réalité des eaux, en fait. Parce que face aux médias, ils sont dans le discours de, ouais, c'est un paradis pour les félins, ils mangent de la viande de top qualité... Et en réalité, c'est pas du tout ça, en fait. Joe Exotic, il se fait appeler le roi des tigres. Il dit que ça va lui coûter 750 000 dollars pour rien pour nourrir les tigres et les lions. Et il se vante de leur donner de la viande, mais de top qualité, etc. Mais tu te rends compte qu'il récupère genre de la viande périmée dans les Walmart pour leur donner, tu vois.
Oui, enfin, puis la viande aux États-Unis, enfin, c'est... Ouais.
Voilà.
Voilà, c'est quelque chose.
Tu t'aperçois que les lions, peu importe, ils ont pas finalement tant d'espace que ça pour vivre. Là. Les gardiens, ils sont sous-payés, ils sont payés de misère, ils sont mal logés. Y a aussi une attraction qui est, moi, je trouvais ça sordide, qui est de pouvoir tenir des lionceaux.
Ah, j'ai vu passer des trucs comme ça parce que sur le compte Instagram de PETA, bon, PETA, c'est pas non plus à recommander, c'est pas ouf. Mais ils ont plein d'images comme ça.
Ouais.
C'était peut-être lui que j'ai vu.
C'est
du
possible.
Coup. Ouais.
Et donc, tu vois, les pauvres lionceaux qui se font tenir toute la journée par des inconnus.
Oui, mais à Dubaï aussi, il y a ça. Y a, tu payes pour justement prendre la petite photo avec le petit lionceau trop mignon.
Tu sais pourquoi ? C'est parce qu'il y a une mode aux États-Unis qui est de pouvoir se faire prendre en photo avec des lionceaux pour mettre sur son profil Tinder. Voilà.
Oh, c'est un Tinder.
Vraie histoire. Hein. Donc, et du coup, ça rapporte pas mal d'argent aux zoos. Mais le souci, c'est que les lionceaux grandissent. Et que bah, il faut toujours des petits lionceaux pour alimenter la machine. Donc il va revendre les lions adultes et essayer d'avoir une bonne portée de lionceaux. Bon, c'est assez sur la réalité des animaux, c'est pas très drôle.
C'est affreux.
Voilà, Joe Exotic, lui, bah, le personnage en question, il a écopé de la prison pour une tentative de meurtre. Et on raconte même que Trump songe à le gracier. C'est très américain.
Oh là là.
Est-ce que c'est étonnant?
Non, pas
vraiment.
Bien évidemment. Donc,
bref,
c'est ça.
Je peux pas dire que j'ai énormément apprécié.
Ouais.
Les deux premiers épisodes, ils auraient pu être condensés en un seul. C'est un peu long. Je suis un peu plus consterné qu'autre chose quand je ressors parce que le tour de force, c'est que c'est la réalité.
Ouais.
Et qu'on m'aurait dit, c'est une série, j'aurais fait, ok, mais les personnages sont un peu caricaturaux quand même. Mais là, c'est la vraie vie. Tu vois,
c'est dingue, triste vie.
Voilà, donc je vais pas la déconseiller non plus. Le mieux, c'est de faire votre propre avis.
Bien sûr.
Y a de tout, hein. Y a de l'ambiance sectaire, il y a du redneck, des armes à feu, des trafiquants tout genre, le FBI
les
qui gueule, du harcèlement, des menaces, etc. L'obsession de l'argent, le cul de la personnalité. Accrochez-vous. Hein. Voilà. Et pour terminer cette chronique, alors que je préparais cette chronique, j'ai vu une news. Cette série documentaire va être adaptée en série télé.
Pardon ?
Et qui va jouer le rôle de Joe Exotic qu'on voit là ? Je vais vous laisser deviner.
Attends.
Regardez la coupe de cheveux. Qui pourrait avoir une si belle coupe de cheveux ? Bah, c'est Nicolas Cage.
Pardon ? Pardon ?
Nicolas Cage va jouer le rôle de Joe Exotic dans une série.
No way.
Mais non. Oh.
Voilà.
Attends. Non, par contre, ça m'énerve. Alors, j'ai du mal. Parce que de faire une série sur ça, c'est inutile. Alors qu'il y a plein de séries... on attend une suite et en fait ils ont pas assez d'argent, les gens veulent pas payer pour cette série alors que c'est des séries trop bien. Par exemple Sense8, ils ont dû faire un film pour la finale.
Tu sais pourquoi? C'est parce que dans le plan business plan de Netflix, ça coûte, disons que produire deux premières saisons d'une série, c'est ce qui rapporte des abonnés. Mais au bout de 3-4 ça rapporte plus tant d'abonnés, ça devient trop cher à produire.
C'est triste, putain, le fric quoi.
Comme Dirt Gently, putain, merde. m'as trigger.
Ça va aller, Vincent?
Ah, je suis pas bien, Dirt Gently.
Reprends un peu de bière, Vincent. Reprends un peu de Belfort.
voilà, c'était pour Au Royaume des Fauves. Je vais quand même terminer la série pour voir ce que ça donne, mais je vais y aller un peu à reculons. Mais regardez Wild Wild Country, c'est tellement mieux à des kilomètres.
Mais en vrai, en parlant de ça, là, c'est assez, assez exotique et tout, parce que c'est avec des tigres et tout, mais s'il y en a qui font... Enfin, dans les centres équestres, en fait, et les élevages de chevaux, c'est pareil. Les élevages c'est pareil, en fait. Mais c'est moins exotique. Les chevaux, on est habitué à les voir. Et en fait,
Ah mais la,
maintenant je m'en rends compte, c'est exactement la même, c'est juste que ça paraît moins grandiose, mais.
Mais ceux qui veulent faire justement les gens qui sont mono justement dans les centres équestres, en fait ils ont une vie mais tellement nulle, enfin ils vivent tellement mal, enfin ils sont tellement mal payés,
ils sont sous-payés,
et puis c'est pour ça qu'ils sont méchants des fois.
Bah ouais. Non et puis allez bah. Ouais, les gens sont pas très sympas dans les clubs et tout. Mais ouais, enfin en fait, je suis désolée, hein, je suis partie là-dessus, mais c'est que je viens d'y penser. Mais même, je suis sûre que tu vas dans les élevages de chats ou de chiens ou de hamsters ou genre c'est tout aussi terrible. Mais c'est juste c'est moins gros, donc
rien
c'est moins
que
impressionnant. Mais
le fait de changer le code génétique de certains animaux pour qu'ils soient plus mignons, plus petits,
ouais,
tout
putain,
ça, ça me saoule vraiment.
Ouais, c'est...
Voilà, c'était Orion des fauves. On a bien parlé de trucs déprimants ce soir.
Ouais.
On va essayer de rehausser ça avec la dernière petite chronique, les trucs en plus. C'est
parti. Oui.
There is one more thing. But there is one more thing. But we've got one more thing.
Les trucs en plus, hein, voilà, des petites choses qu'on rajoute, c'est du bonus. Je vais commencer, j'ai deux choses. J'ai une, regarder les orages, parce que c'est quand même, putain, qu'est-ce que c'est bien. Meilleur moment, quoi. Meilleur moment,
alors,
c'était fou.
Autre, regardez Vincent regarder les orages.
Ouais.
Ça, c'est encore plus
d'accord,
fou.
D'accord.
Écoutez.
Putain, mais bravo la nature, c'était tellement bien. Et deuxième chose, j'ai revu récemment, parce que je m'ennuyais, j'ai regardé Jell's Marble Runs, ces petites courses de billes. J'ai regardé les Olympiades de 2019, bien sûr. Hein. C'était trop bien, la Team Momo a fait une bonne participation. Les Océaniques, c'était franchement dans les chaussons, c'était terrible. En plus, c'était l'équipe hôte. C'est eux qui hostaient la compétition et puis ils sont arrivés derniers.
Ah merde, putain, ça c'est.
Et
ça,
après,
c'est pas
ils ont,
de bol,
après
hein.
assez logiquement, ils ont renvoyé Tide, qui est le coach de l'équipe. Enfin bref.
Ah, voilà. Du coup, c'est le coach, c'est une bille aussi.
Oui,
d'accord.
Mais en fait, dans le monde, dans ce truc-là, c'est tellement bien fait que c'est pas juste des billes, tu vois.
Ouais, elles ont une âme, quoi.
C'est des équipes.
Ah oui.
C'est des équipes avec des valeurs. Et c'est pour ça que c'est bien fait et que j'aime beaucoup regarder ça parce que passer le truc un peu enfantin et tout, tu te rends compte de la qualité du travail qu'il y a rien que pour faire une vidéo de 10 minutes et je trouve ça assez fou. Voilà. Et regardez aussi les Olympiades d'hiver de 2018 parce qu'il y a la team Momo, enfin il y a Momo qui a été blessé.
Ah merde.
Et il a été remplacé par Mimo, mais ils n'ont pas réussi à terminer. Bref, c'était
dur pour Momo.
2018, c'était vraiment là.
Aïe.
Au-delà de la blague, regardez Jell's Marble Run. Si vous avez des enfants, ça pourra leur plaire. Je pense que ça leur plaira beaucoup. Voilà. C'est quoi votre truc en
plus ? Ça a l'air cool.
Alors moi...
Ouais.
Vas-y. Alors, c'est un compte Twitter que je recommande ou pas, mais c'est quelque chose qui me fait assez rire. Enfin, le compte Twitter, c'est FCK, pardon. It's Sunday. Et donc, en fait, chaque dimanche, t'as une vidéo d'une actrice pornographique. Je sais pas pourquoi on précise à chaque fois pourquoi on dit acteur pornographique, actrice pornographique.
Dépend,
alors que, par exemple, Marion Cotillard, on dit pas actrice de film, je ne sais quoi, ou Vin Diesel, acteur de film d'action, on dit jamais. Alors que là, Sophie Anderson, voilà, c'est une actrice pornographique, enfin bref. Et donc chaque dimanche sur ce compte-là, tu as une vidéo je dirais 5 secondes de l'actrice qui dit fuck, it's Sunday. Et voilà.
Okay.
Tous les dimanches.
C'est bien.
Voilà.
Donc c'est ton truc en plus.
Et donc voilà, donc
mais je juge pas, hein.
Et donc en fait, j'ai un ami sur Twitter. Chaque dimanche, il like cette vidéo, du coup, chaque dimanche
ta petite notification.
J'ai ma petite, enfin, je vois le Fuck It Sunday.
Très
voilà.
Bien. Tu me redonneras le compte. Pour
voilà.
Que, moi, j'irai m'abonner après. Et toi, Léa ?
Alors moi, du coup, c'est en fait pendant ce confinement, j'ai découvert la série Skins. Voilà,
grâce à moi,
grâce à Abibi. J'ai adoré. C'est beaucoup trop bien. Et alors, je vais conseiller du coup une chanson qui est dans le dernier épisode de la dernière saison de Skins, sur un personnage qui s'appelle Cook. Et cette chanson s'appelle Stolen Youth de Roots Manuva. Donc, Voilà, Roots Manuva, du coup. Et elle est très, 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 très cool. Et sinon, bah, du coup, je vais conseiller un compte Twitter, du coup. Au débeauté, comme ça, je viens d'en sélectionner un. Ça va pas étonner certains. C'est un compte qui s'appelle Soviet Soldiers Dancing. Le fameux. Bon. Voilà. Donc, en fait, c'est des danseurs soviétiques qui dansent sur des musiques de pop. Voilà.
Et t'as vu la
c'est
qualité
très, très cool.
des pas de danse, c'est impressionnant.
Le lever de jambes.
Mais les Russes, les Soviétiques sont très très bons en danse. Enfin, ah ouais rien que en danse classique déjà. Enfin, ils sont très très doués. Enfin, le Bolshoï, c'est magnifique. Enfin bref, là on est sur un autre sujet, mais très très doués les Russes.
Ouais. Et donc si vous voulez aller voir la meilleure vidéo sur le compte Twitter de Soviet Soldiers Dancing, c'est celle sur Hard Times de Paramore. Elle est magique, voilà.
Eh ben, on regardera ça après.
Celle sur Cher aussi.
Ah, elle est bien aussi, ouais. Believe.
Oui.
Ouais, ouais, elle est ouf.
Do you believe in love? I don't know.
Bon, désolé de vous interrompre, mais c'est la fin de l'émission.
Ah, déjà.
Ça passe vite, hein.
Ouais, c'est vrai que ça passe vite.
Ça passe vite, hein.
Mais encore.
Donc, merci aux gens qui ont écouté jusque-là, parce qu'il y en a qui écoutent jusque-là. Bravo. Merci, merci. Léa, merci Abby.
Alors, voilà. Merci Vincent.
Est-ce que ça vous a plu?
C'était
génial.
En vrai, ouais, en fait,
c'est cool, hein.
Le temps passe tellement vite, j'ai envie de recommencer.
Eh ben, vous reviendrez.
Ah, bah, avec plaisir, bah, tout oui, avec grand plaisir.
Voilà. Et puis là, c'est vrai que c'était un peu roots. J'ai dû redémarrer un peu la machine. J'ai dû resserrer quelques boulons. Bref, je pense que ça se passera mieux la prochaine fois.
Oui.
On va faire un petit instant pub si vous voulez. Est-ce que vous avez un blog ou un Twitter à faire à votre Twitter. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, hein, je ne force pas. Non.
Ah si, bah alors moi sur Instagram, moi je fais de la photographie, mais bon c'est moi donc bon. Voilà,
si tu veux le donner, tu peux.
Donc
c'est très qualitatif. Moi je vous conseille d'aller voir.
Donc c'est Abby78 underscore, enfin, tiré du 8, 29. Et donc, bah, il y a mes propres photographies. Bon, ces temps-ci, je poste pas trop parce que j'ai un petit souci de, j'ai un petit souci avec ma carte SD. Enfin, bref. C'est une autre histoire. Bah, je t'en avais parlé. Enfin, bref. Mais voilà. Donc voilà. Si vous voulez suivre, n'hésitez pas.
Et toi, Léa?
Eh ben moi, du coup, vous pouvez me... Oh, j'adore. C'est trop rigolo, je me croirais à la télé.
Il y a un bandeau qui s'affiche en bas et on voit ton compte Twitter qui s'affiche.
Oh, dingue.
Donc, avec les derniers tweets.
Donc, vous pouvez aller me suivre sur Twitter, donc @souslepoirier, donc avec une majuscule à chaque mot. Et vous pouvez aller me suivre aussi sur Instagram. Voilà, donc je fais de la pâtisserie. ça va paraître nul, mais je fais de la pâtisserie, du dessin, du tricot, de la couture. Je fais plein de trucs.
Que des travaux manuels.
Voilà. Et du coup, sur Instagram, c'est @Léa's Workshop, du coup, l'atelier de Léa. Donc, voilà.
Très bien. Pour l'émission, vous retrouverez l'émission sur le podcloud de l'émission, carteblanche.podcloud.fr. Il y avait une page Facebook il y a 2 ans, mais elle n'existe plus.
Ah.
Il y avait un compte Twitter il y a 2 ans.
Waouh, un compte Twitter.
Carteblanche PDC qui n'existe plus parce que j'ai à peu près entre 20 et 25 comptes Twitter. Donc, je vais éviter de trop en utiliser.
Attends, il y a des comptes Twitter dont on n'est pas au courant là.
Laisse tomber.
Ah, Vincent, il est trop dark.
Voilà. Oh là là.
On va essayer de se refaire quelques émissions dans des temps à venir, c'est très incertain, je ne sais pas comment ça va se passer, la situation est assez particulière, on va voir comment ça se déroule, mais en tout cas c'était sympa de refaire cette petite émission tranquille, nous on va aller se boire un petit verre, tranquille.
Un petit un ou deux petits
un
verres.
Petit un verre petit... de Saint-Émilion,
oui.
Et puis on va dire au revoir aux auditeurs surtout,
au revoir,
au revoir
les auditeurs
et à bientôt peut-être,
oui, à bientôt,
avec plaisir, à bientôt,
au revoir,
ciao ciao.